Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée pour les jeunes adultes du département de l'éducation de l'Église. Cette émission est diffusée à partir du tabernacle d'Ogden, près du temple nouvellement reconsacré d'Ogden en Utah, aux États-Unis. Cette veillée est interprétée dans de nombreuses langues pour les jeunes adultes du monde entier. Je suis Tony Reynolds, président du premier pieu de jeunes adultes seuls d'Ogden en Utah. Nous souhaitons la bienvenue à Donald Alstrom de la présidence des 70 et nous sommes reconnaissants que Sœur Alstrom l'accompagne ce soir. Frère Alstrom, notre orateur de ce soir, sera présenté ultérieurement. Nous saluons la présence d'autres autorités générales et 70 interrégions. En outre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur l'estrade des administrateurs du DEE et des séminaires et instituts de religion, ainsi que des présidents de pieux de jeunes adultes seuls d'Ogden et d'étudiants mariés avec leurs femmes. Pour commencer cette veillée, le chœur et l'assemblée chanteront le cantique « Sauveur d'Israël », cantique numéro 5 dans le recueil des cantiques français. Nous apprécions l'aide de Jessica Love qui dirigera la musique et de Rachel et Ivy qui nous accompagnera. Après le cantique, Chantal Cordon de la première paroisse du pieu de jeunes adultes seuls d'Ogden fera la prière d'ouverture.
Our dear kind heavenly
Cher
Father,
Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants de l'occasion que nous avons de nous réunir pour écouter Frère Alstrom. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons d'avoir ce nouveau bâtiment consacré. Nous sommes aussi reconnaissants pour son confort. Nous te demandons de nous aider à avoir l'esprit et le cœur ouverts à ce que tu veux que nous entendions ce soir, pour que nous puissions le garder avec nous le reste de la semaine et faire ce que tu nous as demandé. Nous te demandons de bénir Frère Alstrom pendant qu'il donne son discours. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous écouterons d'abord Paul V. Johnson, des 70, et commissaire de l'éducation de l'Église.
Mes chers frères et sœurs, chacun de nous est fille ou fille d'un Père céleste aimant qui appelle et inspire des dirigeants pour nous aider et nous guider. Quelle bénédiction de nous assembler pour recevoir l'enseignement des personnes chargées de nous le dispenser. Merci d'être ici ce soir. Pour commencer, j'ai deux annonces brèves mais importantes à vous faire. La première est qu'à partir de janvier 2015, les veillées du DE comme celle-ci s'appelleront Veillée mondiale pour les jeunes adultes. Ces veillées mondiales auront lieu trois fois par an, en janvier, mai et septembre. Ces changements ont pour but de souligner l'importance de chaque veillée et de s'assurer qu'on invite à y participer chaque jeune adulte, où qu'il vive et quelle que soit sa situation. Nous espérons que vous ferez tout votre possible pour assister à chaque veillée et pour inciter d'autres jeunes adultes à y assister avec vous afin qu'ils aient une occasion de vous rencontrer, d'écouter les conseils de nos dirigeants et de recevoir des révélations et une orientation personnelle. Nous recommandons aux dirigeants de la prêtrise de faire de ces veillées mondiales des manifestations importantes dans leur région. L'autre annonce porte sur les cours de religion requis pour obtenir un diplôme des instituts de religion et des universités de l'Église. Le bureau d'éducation de l'Église et les bureaux réunis des universités de BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii et LDS Business College ont approuvé quatre nouveaux cours qui seront proposés au début de l'automne 2015. Ces cours sont Jésus-Christ et l'Évangile éternel, les enseignements et la doctrine du Livre de Mormon, Fondements du rétablissement et la famille éternelle. Ces nouveaux cours ont été conçus pour devenir des pierres angulaires de votre instruction religieuse. Ils s'appuieront sur les Écritures et les enseignements des prophètes des derniers jours, particulièrement sur le Sauveur, sa doctrine et les événements importants de l'histoire de l'Église. En étudiant tous les ouvrages canoniques, les Écritures se liront les unes aux autres et cela vous aidera à mieux connaître l'Évangile et à mieux comprendre et apprécier chaque ouvrage canonique. Ces cours s'appuieront sur vos expériences personnelles précédentes d'études des Écritures. Ils vous aideront à appliquer les principes de l'Évangile dans votre situation personnelle. J'ajoute que nous continuerons de proposer tous les cours basés sur les Écritures ainsi que d'autres cours de religion dans nos instituts et nos universités. Ces nouveaux cours seront requis de tous les nouveaux étudiants et seront accessibles aux autres. Veuillez suivre ces cours et efforcez-vous d'obtenir votre diplôme d'une université de l'Église ou d'un institut de religion. Si vous avez déjà rempli les conditions d'obtention d'un diplôme, pensez à suivre ces cours et à continuer d'étudier l'Évangile dans le cadre de l'institut et des cours de religion à l'université. Dans les prochains jours, vous pourrez en apprendre plus sur ces nouveaux cours en consultant le site education.lds.org. Je suis certain qu'en assistant aux veillées mondiales et en suivant les cours de religion, vous comprendrez mieux les Écritures, vous rencontrerez d'autres jeunes qui vous édifieront et vous inspireront, et vous renforcerez votre foi et votre témoignage de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Ce soir, nous avons avec nous un chœur combiné des instituts de religion d'Ogden qui chantera Divine Amour. Il sera sous la direction de Donald Keaton de l'Institut de religion d'Ogden et sera accompagné par Rebecca Wakefield. À la suite de l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Frère Hallstrom. À la fin des propos de Frère Hallstrom, le chœur interprétera « Version Cité Promise ». Il sera sous la direction de Gregory Simpson, qui est également de l'Institut de religion d'Ogden, et sera accompagné alors par Sœur Ivy. Ensuite, la prière de clôture sera faite par Jordan Hawkins, président de collège de la 11e paroisse de jeunes adultes seuls d'Ogden. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter l'orateur de ce soir. Donald L. Hallstrom a été nommé membre de la présidence des 70 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 4 avril 2009. Il a été appelé membre du premier collège des 70 le 1er avril 2000. Au moment de son appel comme autorité générale, il était 70 d'interrégion dans l'ouest de l'Amérique du Nord. De 2005 à 2009, Frère Hallstrom fait partie de la présidence de l'interrégion d'Océanie, basé à Hong Kong, et termine son service comme président de l'interrégion. De 2000 à 2003, il est dans l'interrégion d'Asie du Nord. Il réside à Tokyo comme président de l'interrégion. De plus, il a été le directeur exécutif du département audiovisuel de l'Église comme membre de la présidence générale des jeunes gens. Frère Hallstrom a une licence en économie de l'université Brigham Young. Au moment de son appel à plein temps pour l'Église en 2000, il était le président de Hallstrom Group Inc., une société de conseil et d'expertise immobilière basée à Honolulu. Il a détenu divers titres professionnels et a aussi été témoin expert auprès des tribunaux d'État et fédéraux. Frère Hallstrom a siégé dans divers conseils d'administration, notamment le conseil exécutif du Aloha Council des Boy Scouts of America et de la table ronde du président de l'université de Brigham Young, Hawaii. Il a aussi été vice-président de Hawaii Reserve INC, qui gère des propriétés non ecclésiastiques appartenant à l'Église à Hawaii. Il a servi au conseil consultatif national des Scouts d'Amérique. Frère Hallstrom a été missionnaire de l'Église à plein temps en Angleterre, président du Collège des Anciens, membre du Grand Conseil, évêque, président de Pieux et représentant régional. En 1995, il est appelé comme autorité interrégionale et en 1997 comme 70 autorités interrégionales. Il est né à Honolulu, à Hawaï, le 27 juillet 1949. Il est marié à Diane Clifton et ils ont 4 enfants et 6 petits-enfants. Le chœur chantera maintenant « Divine Amour ».
Thank you. We thank our inspiring choir. How wonderful that was.
Nous remercions ce merveilleux chœur. C'est un honneur pour Sœur Hallström et moi d'être avec vous ce soir. En regardant les visages que nous pouvons voir, nous imaginons les jeunes adultes mariés, célibataires, qui prennent part à cette diffusion partout dans le monde. Nous avons l'occasion de beaucoup voyager partout dans l'Église. Nous avons rencontré beaucoup d'entre vous et beaucoup de gens comme vous. Nous avons rencontré des jeunes adultes convertis et d'autres qui s'efforcent d'être plus convertis. Nous avons rencontré des jeunes adultes qui sont perdus, d'autres qui ont été retrouvés ou plus précisément qui se sont trouvés. Nous avons rencontré des gens qui ne sont pas de notre confession, d'autres qui ont été récemment baptisés et d'autres dont la famille est membre de l'Église depuis des générations. Nous témoignons que tous sont les enfants de Dieu et ont toutes les possibilités d'obtenir toutes les bénédictions de l'éternité. Au nom des dirigeants de l'Église, je peux vous dire avec enthousiasme, nous vous aimons. Pour avoir observé de près les prophètes et les apôtres, et les connaissant comme je les connais, je peux vous dire avec assurance qu'ils se soucient profondément des jeunes adultes de l'Église. Vous êtes le présent et l'avenir. Nous avons besoin de vous. Cette réunion est diffusée depuis le tabernacle d'Ogden, magnifique bâtiment rénové situé à côté du majestueux temple d'Ogden. Ce temple et ce tabernacle ont été reconsacrés par le président Monson il y a seulement 6 semaines. Ce temple de l'Église est l'un des 143 services dans le monde. Pour vous donner une idée de mon grand âge, ou plus positivement de la façon dont le Seigneur hâte son œuvre, quand je suis né, il n'y avait que 8 temples. En faisant du temple une métaphore, ce soir je parlerai des fondations. Entre la conception et la construction de chaque temple, un important travail est consacré à ce qui ne se voit pas facilement une fois le projet terminé, les fondations. Par exemple, voici une représentation artistique du temple de Philadelphie en Pennsylvanie, actuellement en construction. Quand il sera terminé, ce bâtiment extraordinaire fera 25 mètres de hauteur et atteindra 60 mètres jusqu'au sommet de l'ange Moroni. Comme vous le voyez, il sera magnifique. Toutefois, aussi imposant et majestueux que soit ce bâtiment, il sera sujet à des vents destructeurs et à des nappes phréatiques débordantes. Ces dures conditions, si on ne limitait pas leur action, pourraient endommager gravement et même détruire ce noble édifice. Sachant que ces forces allaient sans relâche attaquer le temple, les ingénieurs ont conçu, et l'entrepreneur a creusé, un trou de 10 mètres de profondeur en dessous de tout le bâtiment. Ce trou a été creusé dans le granit de la région de Pennsylvanie pour offrir une fondation inamovible sur laquelle bâtir. Les bases de béton et les fondations ont ensuite été attachées à la base de granit avec des ancres pour résister aux vents tempétueux et aux puissantes nappes phréatiques. Les ancrages ont été forés de 15 à 53 mètres dans le granit, étendus à 113 tonnes par mètre carré. Les ancres sont espacées de 4 mètres et demi dans les deux directions. Je donne des renseignements aussi détaillés pour enseigner ce qui suit. Contrairement à l'édification d'un bâtiment, qui par définition est temporaire, dans l'édification de notre vie intemporelle, et je l'espère éternelle, parfois, malheureusement, nous prêtons peu d'attention à la conception et à la construction de nos fondations. Par conséquent, nous nous retrouvons grandement exposés et sommes facilement secoués par des forces dangereuses. Nous vivons dans un monde qui peut être déroutant et qui, si nous le permettons, peut nous faire oublier qui nous sommes réellement. Le président Monson a déclaré « La condition mortelle est une période de mise à l'épreuve, une période pour nous montrer dignes de retourner en la présence de notre Père Céleste. Pour être mis à l'épreuve, nous devons affronter des défis et des difficultés. Ils peuvent nous briser, et la surface de notre âme peut se fissurer et se désagréger. Si notre fondation de foi et notre témoignage de la vérité ne sont pas profondément ancrés en nous, nous ne pouvons nous reposer sur la foi et sur le témoignage d'autres personnes que pour un temps. Finalement, nous devons avoir notre propre fondation solide et profonde. Sinon, nous ne pourrons pas résister aux tempêtes de la vie qui ne manqueront pas de venir. Jésus-Christ a décrit une personne qui l'entend et qui le suit ainsi. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Jésus-Christ est le roc sur lequel nous devons bâtir notre fondation. Le Seigneur s'est lui-même appelé la pierre d'Israël et a déclaré avec clarté que celui qui bâtit sur ce rocher ne tombera jamais. Moïse a dit, « Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. » David a déclaré, « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon bouclier, ma haute retraite. » Le Seigneur a dit à Hénoc, « Je suis le Messie, le roi de Sion, le roc du ciel. » Néphi a loué le Seigneur qu'il a appelé le rocher de mon salut et le rocher de ma justice. Ésaïe a appelé le Seigneur une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Paul a dit que les apôtres et prophètes étaient les fondements de l'Église, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. D'une manière ou d'une autre, nous la comprenons tous. Cela nous a été enseigné par nos parents, à la primaire, dans nos classes des jeunes filles et nos collèges des jeunes gens, au séminaire, à l'institut, par les missionnaires à plein temps, par nos amis, par les dirigeants locaux de l'Église, par les Écritures et par les prophètes et apôtres actuels. Alors pourquoi est-il si difficile pour tant d'entre nous de l'appliquer ? Pour répondre simplement, cela doit passer de notre esprit à notre cœur et à notre âme. Cela doit être plus que ce que nous pensons parfois, ou même que ce que nous ressentons parfois. Cela doit devenir ce que nous sommes. Notre lien avec Dieu, notre Père, et son plan éternel, et avec Jésus-Christ, son Fils, et notre rocher, doit être fermement établi pour véritablement devenir la pierre angulaire de notre fondation. Notre identité devient alors premièrement celle d'un être éternel, un fils ou une fille de Dieu, et un récipiendaire reconnaissant des bénédictions de l'expiation de Jésus-Christ. D'autres identités justes peuvent être édifiées de façon sûre sur ce fondement, parce que nous différencierons ce qui est éternel de ce qui est temporel et saurons quelle priorité leur accorder. Et nous choisirons même d'abandonner d'autres identités et leurs pratiques, dont certaines sont hautement estimées par le monde. J'aime le cantique « Quel fondement ferme ». Ma version préférée, et ce n'est pas une surprise, est celle interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Être assis devant le chœur pendant la conférence générale, entendre et ressentir la puissance de l'orgue, des voix, de la musique et des paroles, me donne envie de me lever et de me joindre à eux. Mais sachant que je me serai expulsé du centre de conférence, je m'abstiens. Écoutez ce merveilleux cantique chanté il y a 4 semaines à la session du dimanche matin de la conférence générale. Savourez les paroles, particulièrement celles du dernier couplet. C'est en fait le 7e couplet, disponible dans la version anglaise, mais ici il est chanté en 4e.
What more can he say than to you?
Recently, I was in a meeting.
J'ai assisté récemment à une réunion dans le temple de Salt Lake City avec les membres de la première présidence du Collège des douze apôtres et d'autres autorités générales affectées au siège de l'Église. Nous avons chanté les trois couplets habituels de ce magnifique cantique. Nous arrêtons après le troisième, comme nous le faisons souvent en réunion de Sainte-Cène ou à d'autres réunions. Mais cette fois, le président Monson a dit, chantons le septième couplet. Avec toutes ces éminentes autorités générales, parmi lesquelles le prophète actuel et les apôtres, nous avons chanté, mon âme allongée auprès de Jésus pour se reposer, devant ses ennemis, je ne pourrai déserter. Cette âme, que l'enfer s'évertue à secouer, jamais, non jamais, jamais, non jamais, jamais, non jamais, je n'abandonnerai. Est-ce la description de qui vous êtes? Cela décrit-il au moins ce que vous vous efforcez de devenir? Il n'est pas facile d'édifier ou d'entretenir une fondation spirituelle. Le processus de construction est un projet important et l'entretien est un effort à vie. Nous félicitons sincèrement ceux d'entre vous qui font de réels efforts et nous voulons savoir ce que vous faites. Utilisez les réseaux sociaux pour dire ce que vous faites. Écrivez le hashtag CESDEVO, D-E-V-O, et complétez la phrase « J'édifie mon fondement spirituel en… » Les réponses seront aussi variées que les situations individuelles, et c'est très bien ainsi. Une fois encore, la phrase à compléter est « J'édifie ma fondation spirituelle en… » Nous vous serons reconnaissants que vous nous disiez ce que vous faites et ce qui se passe dans votre vie. Si vous n'avez jamais eu la fondation dont nous parlons, ou si par négligence vous l'avez laissée se craqueler ou s'effriter, il n'est pas trop tard pour vous revêtir de votre casque de chantier et vous mettre au travail. Tous les outils dont vous avez besoin sont à votre portée. Ce sont les mêmes que ceux qu'on utilise pour entretenir une fondation posée. Vous savez ce qu'ils sont. Ce sont les prières constantes et de qualité, l'étude quotidienne de l'Évangile dans les Écritures, la participation active aux réunions de l'Église, tout particulièrement le fait de prendre la Sainte Cène avec une intention réelle, le service continuel et désintéressé, et le respect diligent de nos alliances. Un autre outil essentiel est l'application des recommandations des prophètes actuels. 15 hommes sur terre sont soutenus comme prophètes, voyants et révélateurs. Ils détiennent les clés de la prêtrise de Dieu. Ils nous dispensent souvent leurs enseignements. Plusieurs fois par an, nous levons la main pour les soutenir. Nous prions pour eux chaque jour. Toutefois, la bénédiction extraordinaire d'avoir facilement accès à leurs messages peut nous amener à ne pas en apprécier l'importance. Henry B. Eyring nous a lancé cet avertissement. Rechercher la voie de la sécurité en écoutant les conseils des prophètes est quelque chose de logique pour les gens qui ont une foi forte. Lorsqu'un prophète parle, ceux qui ont peu de foi peuvent penser qu'ils entendent simplement un homme sage donner de bons conseils. Par conséquent, si son conseil paraît facile à suivre, raisonnable et conforme à ce qu'ils veulent faire, ils l'acceptent. Si ce n'est pas le cas, ils considèrent soit que c'est un mauvais conseil, soit que leur situation justifie le fait qu'ils sont l'exception à ce conseil. Le président Eyring a ajouté, une autre erreur est de croire que la décision d'accepter ou de ne pas accepter les conseils des prophètes n'est rien d'autre que la décision d'accepter ou non de bons conseils et d'en bénéficier, ou de rester là où nous sommes. Mais la décision de ne pas accepter les conseils des prophètes change le terrain même sur lequel nous nous trouvons. Celui-ci devient dangereux. Pour édifier et entretenir une fondation, souvenez-vous de trois principes. La vision, l'engagement et la discipline personnelle. La vision est la capacité de voir. Dans le contexte de l'Évangile, nous appelons parfois cela la perspective éternelle. Comme l'a décrit Jacob, c'est voir les choses telles qu'elles sont réellement et les choses telles qu'elles seront réellement. L'engagement est la volonté de faire une promesse. Nous appelons souvent cela les alliances. Nous faisons formellement alliance avec Dieu par les ordonnances de la prêtrise. Souvenez-vous, le pouvoir de la divinité se manifeste dans ces ordonnances. En plus de Dieu, nous devrions vouloir nous engager envers nous-mêmes, notre conjoint, ou à devenir un conjoint, nos amis et les gens que nous servons. La discipline personnelle peut être définie comme la capacité de vivre en accord avec notre vision et les engagements que nous avons pris. L'acquisition de la discipline personnelle est essentielle pour progresser, parce que c'est ce qui permet le passage fluide de l'apprentissage à l'action. Au final, la force de notre fondation spirituelle se voit à la façon dont nous vivons, en particulier quand nous sommes découragés et éprouvés. Il y a de nombreuses années, Gordon Binkley a raconté l'histoire de Caroline Hemenway, qui est née le 2 janvier 1873 à Salt Lake City, la deuxième d'une famille de 11 enfants. À 22 ans, Caroline épousa George Harman. Ils eurent 7 enfants, dont l'un mourut en bas âge. Puis son mari mourut à l'âge de 39 ans, la laissant veuve. Grace, sa sœur, avait épousé David, le frère de son mari. En 1919, pendant la terrible épidémie de grippe, David tomba gravement malade. Puis sa femme, Caroline, s'occupa d'eux et de leurs enfants, ainsi que des siens. Au milieu de ces afflictions, Grace donna le jour à un fils et mourut quelques heures plus tard. Caroline emporta le nouveau-né chez elle, prit soin de lui et le sauva. 3 semaines plus tard, sa fille Annie mourait. Caroline, à ce moment-là, avait donc perdu 2 de ses enfants, son mari et sa sœur. C'en était trop. Elle s'effondra. Elle s'en sortit avec un diabète très grave. Mais cela ne l'arrêta pas. Elle continua à s'occuper du bébé de sa sœur, et son beau-frère, le père de l'enfant, vint voir le bébé chaque jour. Plus tard, David Harman et Caroline se marièrent. Il y avait maintenant 13 enfants dans leur foyer. 5 ans plus tard, David subit un drame qui éprouva très profondément ceux qui souffrirent avec lui. Il utilisa un jour un désinfectant très puissant pour préparer des graines pour les semailles. Il en reçut sur le corps et les effets furent désastreux. Sa peau et sa chair se détachèrent des os. Sa langue et ses dents tombèrent. Cette solution caustique le dévora vivant, littéralement. Caroline le soigna pendant cette terrible maladie, et à la mort de son mari, elle se retrouva seule avec 5 enfants à elle et 8 enfants de sa sœur, ainsi qu'une ferme d'une 100 hectares qu'elle et les enfants labourèrent, ensemencèrent, irriguèrent et moissonnèrent, afin de pourvoir à leurs besoins. À cette époque, elle était également la présidente de la société de secours, poste qu'elle occupa pendant 18 ans. Tout en s'occupant de sa famille nombreuse et en tendant une main charitable à d'autres, elle faisait cuire 8 pains par jour et faisait 40 lessives par semaine. Elle mettait en conserve des tonnes de fruits et de légumes et s'occupait d'un 1000 de poules couveuses pour gagner un peu d'argent. Elle avait pour règle l'autonomie. Elle considérait l'oisiveté comme un péché. Elle s'occupait des siens et tendait la main aux autres avec une bonté qui ne laissait personne de sa connaissance avoir faim ou froid ni manquer de vêtements. Plus tard, elle épousa Eugene Robinson, qui peu de temps après leur mariage eut une attaque. Pendant les 5 années qui précédèrent la mort de son mari, elle le soigna et veilla à tous ses besoins. Finalement, le corps torturé par les effets du diabète, elle mourut d'épuisement à l'âge de 67 ans. Les habitudes de travail qu'elle avait inculquées à ses enfants récompensèrent leurs efforts au cours des années. Le petit bébé de sa sœur qu'elle avait soigné dès sa naissance et ses frères et sœurs firent à l'université Brigham Young, tous par amour et gratitude, un legs substantiel qui permit d'édifier ce beau bâtiment qui porte son nom. Une fondation ferme est la protection suprême contre les assauts du monde. Nous devrions sincèrement chercher ce qu'Amon et ses frères ont enseigné aux Lamanites et qu'ils ont obtenu quand on a dit d'eux qu'ils furent convertis au Seigneur et n'apostasièrent jamais. Marianne Pratt épousa Parlepi Pratt en 1837. En se rendant au Missouri avec les autres saints, ils vécurent d'horribles persécutions. Quand Parley et le prophète Joseph furent capturés et emprisonnés par la foule à Far West, Marianne était alitée, gravement malade, tout en s'occupant de deux petits-enfants. Plus tard, Marianne rendit visite à son mari à la prison de Liberty et resta avec lui un moment. Elle écrivit « J'ai partagé son donjon, qui était un endroit sale, humide et sombre, sans ventilation. Il n'y avait qu'une petite grille sur le côté. C'était là que nous étions obligés de dormir. » Après la libération de Parley, Marianne et son mari firent des missions à New York et en Angleterre, et ils firent partie du dernier et épuisant rassemblement pour l'Utah, comme elle le décrivit. Finalement, Parley mourut en martyr lors d'une autre mission. Malgré sa vie agitée, Marianne Pratt resta loyale. Elle déclara avec puissance « J'ai été baptisée dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Convaincue de la véracité de sa doctrine par le premier sermon que j'ai entendu. Et je dis de tout mon cœur que s'il n'y a que trois personnes qui restent fermes dans la foi, je serai l'une d'elles. Et malgré toutes les persécutions que j'ai eues à surmonter, je suis toujours restée la même. Mon cœur ne s'est jamais détourné de cette résolution. » Le sujet que nous abordons ce soir est très personnel. Nous pouvons être instruits par les autres. Nous pouvons observer les autres. Nous pouvons tirer des leçons des erreurs et des succès des autres. Mais personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut édifier notre fondation spirituelle. Dans ce domaine, nous sommes notre propre entrepreneur. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. L'une des expériences les plus fortes de l'édification de la fondation de ma vie s'est produite il y a plus de 36 ans. Une fois nos études universitaires terminées, Diane et moi avons déménagé à Honolulu, où je suis né et ai grandi, pour commencer un nouveau chapitre de notre vie. Ce chapitre a finalement été long de 27 ans. Seul un appel d'un prophète nous a fait quitter Hawaï. Le temple d'Hawaï, que l'on appelle maintenant le temple de Lé, parce qu'il y a désormais deux temples à Hawaï, a été consacré pour la première fois par Hubert G. Grant. Le jour de la fête de l'Action de grâce, le 27 novembre 1919. C'était le premier temple construit en dehors de l'Utah, à l'exception de ceux de Kirtland et de Nauvoo. Pendant près de 6 décennies, il a desservi les saints d'Hawaï et, à l'époque, tous ceux d'Océanie et d'Asie. Au milieu des années 1970, le temple a dû être fermé, agrandi et rénové. En conséquence, il a dû être consacré le 13 juin 1978. Spencer W. Kimball, président de l'Église, a présidé la reconsécration. Il était accompagné de ses premiers et deuxièmes conseillers, Anne Eldon Tanner et Marion Jeromny, Ezra Taft Benson, président du Collège des Douze Apôtres, et d'autres membres des Douze et des 70 étaient également présents. Ce n'est pas quelque chose que vous verriez dans notre grande Église d'aujourd'hui. Autant d'autorités réunies pour un événement loin du siège de l'Église, mais nous avons eu cette bénédiction en 1978. J'étais un jeune dirigeant de la prêtrise à l'époque et le comité de coordination de la reconsécration du temple m'avait chargé de la sécurité locale et du transport du président Kimball et de son groupe. Je ne veux pas exagérer mes responsabilités. C'était uniquement un soutien et cela se passait en coulisses. Pourtant, cette responsabilité m'a permis d'être près du président Kimball. Pendant toute une semaine, dont 3 jours de session de reconsécration du temple, une assemblée solennelle et une grande conférence régionale, j'ai observé de près le président de l'Église. Je l'ai vu enseigner, témoigner et prophétiser avec autorité et puissance. J'ai vu ses efforts incessants pour servir individuellement les gens, demandant à rencontrer en privé des personnes qui attiraient son attention en réunion ou en chemin. Je l'ai vu être continuellement utilisé comme un instrument entre les mains de Dieu. J'ai été très impressionné. À la fin de la semaine, nous étions à l'aéroport pour le départ du président Kimball et des personnes qui l'accompagnaient. Une fois encore, je mets l'accent sur mon rôle de soutien limité quand je fais part de ce qui suit. Le président Kimball est venu me remercier de mes maigres efforts. Il n'était physiquement pas très grand, et je suis grand. Il m'a pris par les revers de ma veste et m'a fait me baisser jusqu'à être à sa hauteur. Puis il m'a embrassé sur la joue et m'a remercié. Après avoir fait quelques pas, le président Kimball s'est retourné. Il m'a encore pris de la même manière et m'a fait me baisser à nouveau. Cette fois-ci, il m'a embrassé sur l'autre joue et m'a dit qu'il m'aimait. Puis il est parti. L'année précédente, une biographie de Spencer W. Kimball avait été publiée, écrite par son fils et son petit-fils. À l'époque, je me l'étais procurée et l'avais lue. Je l'avais trouvée intéressante. Après cette expérience très personnelle avec Spencer W. Kimball à l'aéroport, je suis rentré chez moi et j'ai sorti ce gros livre de notre bibliothèque avec le grand désir de le relire. Les jours suivants, dès que je n'avais rien à faire, je le lisais et je méditais. Vous voyez, désormais je lisais un livre sur quelqu'un que j'aimais profondément. Je lisais un livre sur quelqu'un dont je savais qu'il m'aimait. Je lisais un livre sur quelqu'un pour qui je ferais n'importe quoi, parce que je savais que, quoi qu'il me demande, ce serait pour mon bien. Grâce à l'euphorie de cette expérience, j'ai vécu une autre expérience. Celle-ci est trop personnelle pour que je la raconte. Mais à travers elle, je me suis senti très honteux. J'ai compris que je n'avais pas le même amour ni le même respect pour les personnes qui comptent le plus, les membres de la divinité, en particulier pour Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur. Cela m'a motivé à étudier sa biographie et par la prière, le jeûne et la méditation, à savoir que je lisais maintenant un livre sur quelqu'un que j'aimais profondément. Je lisais un livre sur quelqu'un dont je savais qu'il m'aimait. Je lisais un livre sur quelqu'un pour qui je ferais n'importe quoi, parce que je savais que quoi qu'il me demande, ce serait pour mon bien. Mes chers amis, je témoigne que cette connaissance a fait toute la différence dans ma vie et dans notre famille. Je me hâte d'ajouter que cela n'a pas fait de nous des gens sans défaut comme par magie, ni que cela a rendu notre vie facile. Ce serait contraire au plan de Dieu. Mais cela m'a offert un espoir fondateur, une espérance d'une pureté parfaite. Je n'ai jamais pensé à abandonner, à arrêter ou à rebrousser chemin. Je souhaite qu'il en soit de même pour vous. Pour aussi beau que vous soyez dans une assemblée de cette taille, il y a beaucoup de joie et beaucoup de douleur. Individuellement, vous ressentez peut-être profondément le poids des lourds fardeaux de la vie. Peut-être que ce qui se passe dans votre famille n'est pas ce que vous souhaiteriez. Peut-être que votre foi est vacillante. Peut-être que quelque chose de votre passé que vous avez fait ou qu'on vous a fait injustement vous préoccupe. Certains d'entre vous ont peut-être des difficultés physiques, mentales ou émotionnelles qui semblent trop lourdes à supporter. Quelle que soit votre situation, si vous avez une fondation ferme, cela allégera votre charge. Si vous avez le message du célèbre cantique « Je suis enfant de Dieu » dans le cœur et dans l'âme, pas seulement sur les lèvres, et si vous vous appuyez continuellement sur l'expiation du Sauveur Jésus-Christ, vous pouvez trouver la paix et le réconfort même dans les moments les plus difficiles. Ce jour peut être un tournant, voire un moment historique de notre vie. Cela peut être le jour où nous prenons la décision et faisons les efforts disciplinés d'édifier ou de renforcer notre fondation. Pour certains, ce sera d'abandonner une dépendance ou une pratique répugnante qui offense Dieu. Pour d'autres, ce sera de revoir les priorités de leur vie et de faire de leur amour pour Dieu la priorité. C'est d'une valeur inestimable. En fait, c'est l'essence de l'œuvre de notre vie. Aussi personnellement et individuellement que possible, pour une très grande assemblée, je proclame mon témoignage de Jésus-Christ, la pierre angulaire de l'Église et le roc de notre vie. Je rends témoignage de son saint nom. Je témoigne de son autorité, de sa mission et plus important encore, de son expiation qui permet à chacun de nous, quel que soit son passé ou sa situation actuelle, d'aller à lui. Je vous rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear kind Heavenly Father,
notre cher Père Céleste, en nous inclinant devant toi maintenant, nous sommes très reconnaissants pour l'occasion que nous avons eue de nous réunir ici ce soir, dans ce merveilleux tabernacle à côté de ce merveilleux nouveau temple consacré que nous avons. Nous sommes reconnaissants pour Frère Hallström et ses autres orateurs qui sont là pour nous, pour nous donner la direction qu'il faut pour nous rapprocher de toi. Père Céleste, nous prions pour qu'en continuant de suivre l'exemple de ton Fils, nous puissions chercher les personnes autour de nous qui ont besoin de notre aide et que nous pouvons soutenir. Père Céleste, nous sommes très reconnaissants pour notre prophète Thomas Monson et ses conseillers, et nous prions pour eux. Nous prions pour qu'ils aient la force de faire ce qui est nécessaire pour nous aider. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire. Et nous disons ces choses humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.